de l'aménagement, du logement et de la nature, en partenariat avec les ministères de la Transition écologique, de l'aménagement du territoire, de la ville et du logement, en direct du SMCL 2025 sur Radio Territoria.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue en direct du Salon des maires et des collectivités locales 2025 en partenariat avec les ministères de la Transition écologique, de l'aménagement des territoires, de la ville et du logement pour une émission consacrée à une thématique d'actualité, comment mettre les enjeux de santé au cœur de l'aménagement des territoires. Et si la santé passait aussi par l'aménagement des territoires, à l'heure du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité dans un contexte où la population vieillit, où les maladies chroniques liées à nos modes de vie comme le cancer, l'obésité ou le diabète sont en forte progression, mais aussi face à des défis de la santé mentale, il existe un enjeu fort à rapprocher les mondes de la santé et de l'urbanisme et concevoir des villes et des villages favorables à la santé des habitants et des écosystèmes. Pour nous parler de ce sujet, des approches et des outils qui sont à disposition des territoires, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Cécile Thomas-Jouenne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste, experte des enjeux de santé publique et environnementale. Vous avez fondé Cité Santé pour accompagner justement les collectivités sur ce sujet. Alban Narbonne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet du plan parisien santé-environnement à la ville de Paris. Et Colin Cauchois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission Ville et Territoires Durables au sein des ministères, chargé de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct. Nos invités du jour y répondront en seconde partie d'émission avec l'appui d'Hélène Parmentier. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Chargée de mission Mobilisation des Territoires à la DGA Hélène. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement avec vous, Cécile. Ma première question pour vous, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé ?
Oui, avec plaisir. Alors, tout d'abord, on parle d'urbanisme favorable à la santé, mais en réalité, il faudrait plutôt parler d'aménagement favorable à la santé, parce que tous les territoires sont concernés, des plus grandes métropoles jusqu'aux plus petits hameaux en territoire rural. Voilà. Alors concrètement, l'urbanisme favorable à la santé, c'est le lien entre les études épidémiologiques, ce qu'on sait, et les aménagements urbains. Par exemple, on sait que se rendre au travail en vélo diminue de 41% le risque de mourir prématurément et que vivre à proximité d'un espace vert réduit la prévalence des douleurs de dos de 34%. Et comme on a tous mal au dos, ouais. Ces chiffres nous parlent. Maintenant qu'on connaît réellement l'impact de ces éléments, comment fait-on pour aménager notre environnement pour nous permettre de marcher plus au quotidien, d'enfourcher son vélo en toute sécurité et d'être à proximité d'un espace vert ? On va essayer en fait de minimiser l'exposition aux facteurs de risque, par exemple les nuisances sonores, les îlots de chaleur urbains ou l'isolement social, et de favoriser l'exposition à des facteurs de protection, l'activité physique et une alimentation saine. Voilà, je dis souvent, tout ne peut pas reposer sur l'individu. On me dit d'aller courir, très bien, ok, mais si j'habite au sud d'une 4 voies dans un environnement super bruyant, j'ai pas envie de sortir. On me dit de faire mes courses dans des petits commerces, mais s'ils sont tous fermés dans le bourg, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller au supermarché.
Et tout ne repose pas sur l'individu. Alors, plus besoin de médecin ?
Alors, si, il ne s'agit pas de remplacer le soin, mais de décharger et de préserver notre système de soins existant. En fait, on garde en mémoire, dans notre mémoire collective, les épidémies de peste, de choléra, etc. Mais aujourd'hui, en France, les trois grandes causes de mortalité, ce sont quoi ? Les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires. Or, on connaît les liens de ces maladies avec notre environnement. On sait qu'avoir une activité physique régulière fait chuter le risque de cancer. On sait qu'un air de mauvaise qualité, dans un logement avec des moisissures par exemple, ça augmente le risque de problèmes respiratoires. Et puis, il y a plein de liens entre notre santé mentale, notre santé sociale et notre santé physique. Une personne qui a un bon tissu social, par exemple, a moins de risque de contracter un diabète de type 2. Donc voilà, penser notre environnement pour la santé, s'attaquer à ces grandes épidémies non transmissibles, et au passage, c'est faire des économies. Hein. Je le rappelle souvent, mais la sédentarité, par exemple, c'est 17 milliards d'euros par an pour l'État, donc pour nous. Une famille qui vit dans une passoire énergétique, c'est 7 500 euros de frais de santé supplémentaires par an. Donc, l'aménagement du territoire, c'est un levier majeur de santé publique. Et preuve en est, toutes les grandes agences sont mobilisées sur le sujet. L'Institut, l'École des hautes études en santé publique a écrit le guide Isadora, qui est le guide qui fait un peu référence sur le sujet. Mais l'Institut national du cancer a aussi publié un guide de l'aménagement des territoires, par exemple.
Merci Cécile. Alors si je vous suis bien, et même si la compétence santé n'est pas à proprement parler par celle des collectivités, celle-ci aurait tout intérêt justement à se saisir de cette problématique.
Oui, bien sûr. Bah, pour trois raisons. Hein. L'attractivité du territoire. Toutes les collectivités se plient en quatre pour avoir des soignants. Mais en réalité, ce qu'on veut, c'est de la disponibilité. Pour l'attractivité du territoire, la possibilité d'installation de nouvelles familles, hein, mais également pour garder celles qui sont déjà là, on a besoin d'un environnement de qualité grâce aux espaces verts, aux mobilités, à l'alimentation ou aux liens sociaux. Et puis, tout est lié. J'ai eu un entretien avec le directeur d'un hôpital qui m'expliquait qu'il n'arrivait pas à attirer de nouveaux soignants parce que le cadre de vie n'était pas là. Donc, en fait, nos soignants, ils n'ont pas le temps de prendre soin de leur propre santé. Donc, faire des pistes cyclables sécurisées pour rejoindre l'hôpital, c'est aussi prendre soin d'eux. Deuxième raison, la santé n'est pas la même partout. Les collectivités sont les mieux placées pour répondre aux défis qui sont les leurs. Méricourt, par exemple, il y a un écoquartier à Méricourt, près d'Arras, qui a une surreprésentation des enfants en surpoids. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réagi à ce problème de santé publique et ils ont construit une cantine centrale. Et les enfants, chaque jour, se déplacent et vont à la cantine à pied.
Donc ils marchent ?
Ils marchent, exactement, pour avoir des repas de meilleure qualité, parce qu'avoir un environnement où on fait les repas, ça permet aussi de monter en gamme, d'augmenter la qualité des repas, et ils reviennent à l'école en marchant. Donc tous les cheminements de la commune ont été pensés pour améliorer cette activité physique. Et puis, dernier point, tous les territoires vont être confrontés au vieillissement de la population dans les années à venir.
Ouais, c'est le grand chantier des années à venir.
Exactement, c'est un enjeu majeur. Préserver notre capital santé, préserver notre espérance de vie en bonne santé, c'est adapter nos environnements pour permettre l'autonomie des personnes âgées aussi, hein, maintenir leur autonomie. C'est vraiment un enjeu majeur pour les collectivités.
Et oui, il faut penser à nos seniors également. Vous travaillez au ministère Colin, au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Vous confirmez le rôle majeur que jouent les politiques publiques d'urbanisme et d'aménagement sur la santé publique ?
Oui, je confirme, les politiques d'urbanisme et d'aménagement jouent un rôle majeur sur la santé des habitants et des écosystèmes. On pense en premier lieu, et Cécile l'a rappelé, à la question de l'accès à l'offre de soins. Et c'est un enjeu très criant parce qu'aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes en France qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a un phénomène aussi de désert médical qui tend à s'accentuer. Donc c'est vraiment un enjeu important, un enjeu spatial, de rapprocher les citoyens à l'offre de soins. Et en parallèle, il y a un enjeu assez fort, qui est celui de faire de la notion de santé une clé d'entrée transversale des politiques publiques urbaines et d'aménagement. Tout simplement parce que aménager les villes et les villages, c'est travailler à la fois sur le cadre de vie, c'est travailler sur les espaces publics, c'est travailler sur les mobilités, c'est travailler sur les logements, c'est travailler aussi sur l'accès à la nature, au commerce et aux services. Et puis, ce qui est aussi intéressant dans l'approche de l'urbanisme favorable à la santé, c'est la question des co-bénéfices entre la santé et l'environnement. En fait, l'approche, elle vise à la fois les co-bénéfices pour la santé et pour l'environnement. Et c'est cette même stratégie qui irrigue les politiques publiques qui sont portées par le ministère, qu'il s'agisse du plan national d'adaptation au changement climatique, de la stratégie nationale biodiversité 2030 ou encore du plan national nature en ville.
Merci beaucoup. Nous avons la chance d'avoir avec nous Alban Narbonne de la ville de Paris. Comment les enjeux de santé et d'environnement sont-ils justement intégrés dans les politiques publiques menées par la ville de Paris ?
Déjà, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, merci pour votre invitation. Comme le disaient Cécile et Thomas, l'idée c'est de se dire que plutôt que d'être dans une approche curative, on peut retourner le problème et être plutôt dans une approche préventive. Donc construire une ville qui prend soin, qui produit, qui est productrice de soins. Et un premier élément de réponse pour nous, c'est d'abord la planification, évidemment, nos différentes stratégies, qu'elles soient environnementales, nos stratégies d'aménagement. Ça passe principalement par deux volets pour nous. D'une part, le plan parisien santé-environnement, qui est le document qui nous donne le cadre général dans lequel on inscrit toutes nos politiques en matière de santé environnementale. C'est un peu la boussole pour la ville en matière d'objectifs de santé, en matière d'urbanisme, mais bien au-delà. Et puis d'autre part, on a aussi le plan local d'urbanisme bioclimatique qui lui aussi se fait le promoteur en fait de cette notion d'urbanisme favorable à la santé, qui réaffirme au travers les différentes pièces techniques du document, au travers les orientations d'aménagement et de programmation notamment qui sont incluses dans ce PLU. Donc voilà, et puis d'autres stratégies de la ville, le plan climat, la stratégie de résilience, le plan biodiversité, qui sont des plans qui sont tous construits en synergie les uns avec les autres et qui permettent de donner un cadre, vraiment une direction à suivre en matière d'alignement de nos enjeux, en matière de santé, d'environnement, les enjeux sociaux évidemment, face notamment aux enjeux du dérèglement climatique auquel on va devoir faire face très bientôt, et puis face aussi quand même à un constat qu'on fait, qui est celui de la prévalence encore aujourd'hui d'inégalités sociales et territoriales de santé en Île-de-France, à Paris, et face auquel évidemment nous c'est notre volonté principale,
notre combat,
notre combat, c'est de réduire, de réduire ces inégalités socio-territoriales de santé. Et pour ça, on pense qu'on a plusieurs leviers à notre disposition.
Alors, on a bien compris les différents plans. Concrètement, comment ça se traduit d'un point de vue opérationnel sur le terrain en termes de politique d'aménagement à Paris ?
Oui, c'est vrai. Effectivement, il y a le cadre. Donc ça, c'est ce qui nous permet de coopérer, notamment entre les directions. Puis ensuite, il y a la mise en œuvre opérationnelle de ce travail-là. On a en fait une équipe qui mène des évaluations d'impact en santé ou qui réalise des portraits de santé au sein de la direction de la santé publique de la ville de Paris. Et cette équipe d'ingénieurs en santé publique intervient sur sollicitation de la direction de l'urbanisme dans le cadre de projets urbains. Donc très concrètement, lorsqu'un projet est en phase de préfiguration, au début du lancement du projet, nos équipes d'ingénieurs peuvent être sollicitées pour intervenir sur le projet et pour mettre en place une évaluation des impacts en santé, donc une étude qui vise à mesurer dans quelle mesure l'opération va avoir un impact ou pas sur la santé des habitantes et des habitants, et comment est-ce qu'on peut mettre en place des recommandations pour faire un projet plus favorable à la santé. Ça peut être aussi la réalisation de portraits de santé qui permettent de caractériser assez finement un territoire et qui donne des informations très utiles à nos collègues des autres directions lorsqu'ensuite ils doivent prendre les différentes mesures d'aménagement, les orientations qu'ils vont ensuite arbitrer. Et donc très concrètement, c'est un travail qui est fait entre directions et une expertise qu'on porte en régie pour appuyer nos collègues des directions opérationnelles en matière d'aménagement.
Alors Cécile, il y a quand même un point qu'il faut que j'aborde. Est-ce que ça coûte plus cher de faire de l'urbanisme favorable à la santé ?
Pas nécessairement, c'est hyper important. Là, on va avoir une vision globale en urbanisme favorable à la santé. Par exemple, une piste cyclable, ça coûte cher. Ok, très bien. Mais l'OMS a mis en place un outil pour voir combien rapportaient ces aménagements en termes de santé publique. Combien de morts évitées ? Combien d'accidents évités ? Parce qu'une journée à l'hôpital, ça a un coût très élevé et très palpable. Donc ça, en fait, on peut le chiffrer assez facilement. Autre exemple, on a la commune de Mouans-Sartoux en région PACA. Ils ont réussi à créer une régie agricole communale. Donc le PLUI intègre des zones agricoles sur lesquelles sont produits 98% à peu près des besoins alimentaires des cantines scolaires. Ça veut dire que les enfants mangent 100% bio, ou presque, 100% local, et ça ne coûte pas plus cher, le prix des repas n'a pas augmenté. Mais le vrai plus dans cette histoire, c'est que le CHU s'est penché sur ce territoire et a lancé des études, et autour de tout ce projet d'alimentation, on a abouti à moins 30% d'obésité infantile. Moins 30% d'obésité infantile, c'est des enfants en meilleure santé, ça décharge en fait réellement le système de soins. C'est aussi des familles qui se bousculent pour venir habiter là, en fait, pour préserver leur qualité de vie et la santé de leurs enfants. Et puis, dernier point, l'UFS, ça peut vraiment passer par le choix de couleur d'un bâtiment. Construire une médiathèque noire, en béton noir, teintée dans la masse, dans un endroit où on souffre déjà de la chaleur, on va la construire en blanc, et ça, ce sera faire un choix éclairé et de la santé publique. Voilà. Donc ça coûte pas nécessairement plus cher.
Parfois, il y a des petits gestes simples. Je retiens que la nécessité de réfléchir selon une approche globale, c'est justement l'un des axes forts de la démarche éco-quartier sur laquelle vous travaillez, Colin. Est-ce que vous pouvez nous la présenter justement en quelques mots et nous dire comment elle contribue à des aménagements favorables à la santé ?
Oui, bien sûr. Alors la démarche écoquartier, c'est un programme porté par le ministère pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets d'aménagement, à l'appui d'une méthode, à l'appui d'un label et d'une offre d'accompagnement. Je tiens aussi à le préciser, cette démarche, elle s'adresse à toutes les collectivités. On a des métropoles, on a des grandes villes, mais on a aussi de plus en plus de villages et de bourgs qui nous rejoignent pour faire de l'aménagement durable. La grande force de la démarche écoquartier, je dirais que c'est son approche intégrée. C'est aussi le premier pilier. Elle propose une méthode de projet opérationnel qui s'appuie sur une approche intégrée des enjeux de santé et des enjeux de l'aménagement durable. Et donc très concrètement, on propose un guide de l'aménagement durable qu'on met à disposition des élus et qui est structuré autour de quatre grandes dimensions ventilées en 20 engagements et qui vont permettre aux collectivités de prendre en compte à la fois des questions de participation citoyenne, comment est-ce que finalement je fais le projet avec les habitants, comment est-ce que je favorise des espaces publics apaisés et de qualité, des logements de qualité, comment est-ce que je favorise la marche et le vélo pour les trajets de courte distance dans mon territoire, etc. Comment est-ce que je favorise l'accès à la nature. Donc ça, c'est vraiment toutes ces recommandations, si elles sont mises en place de façon systémique, elles vont avoir des impacts extrêmement positifs sur les déterminants de santé humains et non humains, et de façon différenciée, évidemment. Et puis très rapidement, donc, les deux autres piliers de la démarche, ce sont l'offre d'accompagnement sur mesure proposée aux collectivités, donc une offre en ingénierie et financière, qui permet d'aider les collectivités à se poser les bonnes questions dans les phases amont de leur projet d'aménagement, en travaillant sur les périmètres, en travaillant sur la programmation, ou en travaillant aussi sur la structuration de la gouvernance. Et puis on a ce label écoquartier qui est assez connu, qui offre des garanties de qualité aux projets, qui permet de mettre en visibilité les projets d'aménagement durable, qui mettent déjà en place des solutions inspirantes, notamment au bénéfice de la santé.
Et est-ce que vous avez des exemples justement de projets d'écoquartier qui se sont investis sur cette thématique de la santé ?
Oui, on a beaucoup d'exemples. Alors, il n'y a pas de solution unique, hein, mais à chaque fois un ensemble d'actions qui peuvent être pensées de manière conjointe. Et à son niveau, la démarche écoquartier, elle participe à cela et elle peut être une méthode sur laquelle on peut s'appuyer si l'on veut faire de l'urbanisme favorable à la santé. Je peux renvoyer les auditeurs vers 2-3 exemples qui ont été présentés lors de la rencontre nationale du Club écoquartier en juillet dernier qui s'est déroulée sur la thématique de la santé. Je pense à un exemple notamment à Miramas, qui est un projet de rénovation urbaine qui a intégré les enjeux de santé. Le travail a été mené avec les élus, avec les habitants, avec l'école des hautes études en santé publique, le HESP, avec l'ARS et avec un sociologue qui a coordonné cette démarche. Et le travail a visé à identifier 4 déterminants de santé. Je crois qu'il y avait alimentation, cohésion sociale, accès aux soins et activité physique. Et puis de venir regarder ce qui pouvait influencer dans le quartier ces 4 déterminants de santé. Et ensuite, de venir, à partir de ce travail-là de co-construction, d'effectuer des préconisations à la fois sur le plan guide, mais aussi sur le cahier des charges du projet, avec des fiches spécifiques qui ont été adressées aux collectivités, qui ont été adressées aux bailleurs, aux copropriétés, aux promoteurs et aux professionnels de santé dans le territoire. Et puis très rapidement, un deuxième exemple, je pense à la commune de Vollone, qui est située dans les Alpes des Hautes-Provence. Et la maire, elle parlait notamment de la difficulté qu'elle avait il y a une dizaine d'années à mobiliser des médecins sur le territoire. Et donc elle s'est lancée dans la réalisation d'un écoquartier pour réaménager le cœur de bourg, y installer une maison de santé, créer des logements sociaux et requalifier un espace qui était bétonné. Ça a été une vraie réussite et elle disait que ce projet d'écoquartier lui avait servi de base pour élargir la vision de la santé et finalement l'élargir à l'ensemble du territoire en s'appuyant sur le sport santé, en s'appuyant sur le lien avec la forêt, en s'appuyant sur des actions solidaires et citoyennes. Et j'invite les auditeurs, s'ils le souhaitent, à aller voir cette expérience qui a été documentée par des chercheuses de l'Université Aix-Marseille.
Eh bien, on note la référence. Donc, si je vous suis, toutes les collectivités, à leur échelle, elles disposent de compétences pour agir par l'aménagement sur un ensemble de déterminants de santé. C'est bien ça, hein ?
Oui, exactement. En fait, notre santé est absolument partout. Donc, construire un théâtre, isoler une école, rédiger un PLUI, repenser le commerce local, c'est faire de la santé publique. Par exemple, les études montrent que le commerce de proximité, ça permet de consommer moins de produits ultra transformés qui sont nocifs pour la santé. Mais on sait que c'est pas tout, parce que le commerce local, ça permet aussi de rencontrer ses voisins, de créer des liens, ça permet de marcher plus. Il permet d'améliorer la santé physique, mais également la santé mentale. Hein. Et on en parle pas assez, mais on a plus d'un Français sur quatre qui dit souffrir de solitude. Voilà, donc aménager nos centres-villes, c'est vraiment une question de santé publique.
Oui, non, je partage tout à fait ce que dit Cécile. Effectivement, le levier de l'aménagement des espaces publics, des logements, c'est un levier très fort. Tous les espaces d'accueil municipaux qu'on peut avoir, que ce soit les établissements scolaires, les crèches, tous les lieux d'accueil de la ville, et puis évidemment les lieux de soins également municipaux. Donc on a dans notre champ de compétences un certain nombre de leviers, bien au-delà des compétences santé en réalité. On n'a pas non plus parlé de tout le volet végétalisation, aménagement d'espaces verts, etc. Voilà également.
Qui concerne toutes les villes autres que Paris, hein, évidemment.
Tout à fait, oui. Et dans ce contexte de dérèglement climatique, c'est aussi un enjeu sur lequel on est très attentif en matière de santé. Donc non, je pense que je partage tout à fait ce que dit Cécile. On a un panel de compétences assez important pour agir sur la santé des populations en réalité. Et parfois, c'est simplement un enjeu de conscientisation de ces leviers qu'on a entre les mains et de coopération et de coordination entre différentes directions, différents corps de métier, différentes expertises qui permettent de poursuivre ces objectifs en matière d'urbanisme favorable à la santé.
Alors concrètement, si on doit par exemple faire une école, à quel moment on doit prendre en compte la santé ?
Ah, tout le temps.
Parce que tout à l'heure vous évoquiez, vous avez fait pas mal de références aux écoles justement.
Absolument, à n'importe quel moment, en fait, à l'avant-projet, en cours de route, et même à la fin du projet, on peut voir si c'est possible de changer les usages. Hein. Peu importe, la santé est partout, dans la qualité des peintures et des sols, si vous refaites juste un coup de propre, dans les aménagements que vous proposez aux enfants pour qu'ils se dépensent dans la cour, dans le fait de fermer la rue, à la circulation aussi, ça, on le voit de plus en plus pour faire baisser la pollution dans les classes, hein, jusqu'à 30% sur certains polluants, donc on ne dit pas assez.
Ah, c'est ça le premier objectif de piétoniser la rue ?
C'est un des objectifs. Entre autres, ça permet aussi aux enfants de venir avec des mobilités douces, etc.
Qu'on pense aux accidents, mais on ne pense pas forcément, c'est vrai, mais il faut y penser, la pollution de la classe.
Ça baisse la diminution, ça fait baisser la pollution dans les salles de classe. Hein. On a des collectivités qui nous appellent devant une page blanche. Là, c'est génial parce qu'on peut faire un avant-après, voir vraiment l'évaluation dans sa totalité. Et puis, on en a d'autres qui ont presque tout ficelé. Il ne reste que les choix des matériaux et pourtant, ça marche quand même. Et puis, c'est aussi possible de faire de l'urbanisme favorable à la santé en dehors de tout projet. Il faut faire infuser en fait cette nouvelle vision de la santé dont tu parlais, Alban. La laisser faire son chemin dans nos esprits et s'habituer au fait que la santé, c'est pas seulement le soin, c'est aussi une gouvernance, on en parlait tout à l'heure, entre les services, se comprendre, prendre l'habitude de se parler, d'échanger autour de ces questions de santé, ça doit vraiment être un sujet transversal dans les collectivités. Et donc, on a certains territoires qu'on accompagne dans l'organisation d'un séminaire, par exemple, dans le cadre d'un contrat local de santé. Ou d'autres avec les formations qui sont conduites par le ministère, par exemple. Donc ça permet aux agents, aux élus, aux aménageurs et à tous les acteurs de la ville de comprendre les dynamiques santé qui sont à l'œuvre sur le territoire. Quand commence le projet, finalement, cette vision de la santé, elle est déjà transversale. On a déjà les lunettes santé. Et le pas est beaucoup moins difficile à passer, en fait. Quand le projet commence, les réflexes sont là, on parle tout de suite de santé.
Oui, Alban.
Si je peux me permettre un complément, je pense qu'en fait, l'exemple de l'école, c'est vraiment un super exemple, parce qu'effectivement, il y a ces questions qu'on se pose sur comment est-ce qu'on aménage et le bâtiment et les alentours, etc. Mais ça permet aussi de poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut comme offre alimentaire au sein de cette école.
Et ça, c'est important.
L'alimentation de qualité. Ouais. Quelles sont les préconisations qu'on va mettre en place en matière d'entretien de l'établissement, notamment l'aération, le recours ou pas à des produits d'entretien pas certifiés. Quand les enfants ne sont pas là. Il y a aussi tout un tas de questions que ça permet de dérouler derrière et qui nous permettent en fait de prolonger la prise en compte des enjeux de santé dans un ensemble de politiques publiques qui en fait, nous permettent d'accompagner les habitants au quotidien, au plus près de leurs besoins.
Alors, pour finir, une question peut-être à tous les trois, Cécile, Alban et Colin. Y a-t-il une recette miracle pour commencer à faire de l'urbanisme favorable à la santé ?
Je vais bien me lancer si vous le voulez. Non, alors une recette miracle, je pense pas, parce qu'effectivement, et c'est Colin le disait un peu en creux, effectivement, selon les territoires, on a des enjeux, des différences selon qu'on est un territoire rural, urbain dense, etc. Par contre, je pense qu'il y a une une règle immuable à toutes les démarches en urbanisme favorable à la santé, c'est vraiment la coopération entre différents secteurs, différents corps d'expertise de métier. On a besoin des urbanistes, des experts en santé publique, des experts en environnement, des épidémiologues. Voilà, on a vraiment besoin d'un ensemble des sociologues, des anthropologues. On doit vraiment mettre autour de la table un ensemble d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes cultures professionnelles, qui n'ont pas forcément les mêmes manières d'aborder les problèmes, de les définir, d'y répondre. Parfois, on utilise les mêmes mots, pas vraiment avec le même sens derrière. La notion d'environnement entre quelqu'un qui est dans l'environnement et quelqu'un qui est dans la santé environnementale, c'est pas forcément la même chose. Mais en tout cas, voilà, ça nous force à sortir un peu de notre silo, de travailler en coopération. C'est enrichissant humainement et c'est surtout enrichissant, je pense, pour les projets qui en ressortent toujours grandis, à mon sens.
Complètement. Et puis, je rajouterai aussi... Il faut en faire un sujet entraînant. C'est pas une norme de plus. C'est pas quelque chose qu'on a à rajouter. Enfin, quand on est au milieu de la rédaction d'un SCOT ou d'un PLUI, on veut tout, sauf des normes qui s'ajoutent. Donc, en fait, l'urbanisme favorable à la santé, on accompagne beaucoup de communes qui pensent qu'elles n'y connaissent rien et qui en font déjà sans le savoir. Donc ce premier pas, il est là et il faut en faire une thématique vivante et entraînante. On ne veut pas charger la barque avec plus de normes. Il faut voir ça comme du gagnant-gagnant. On parle souvent de la notion de co-bénéfice, en fait. Quand les enfants se dépensent plus à l'école, ils améliorent leur capacité cardio-respiratoire, etc. Ils protègent leur santé, oui, bien sûr. Mais ils se concentrent également mieux en classe, le risque de conflit diminue, etc. Donc, en fait, c'est comme un jeu. Il faut voir ça comme
un jeu.
Ils se défoulent et l'idée, c'est de faire un maximum de bénéfices santé avec chaque action.
Il faut voir ce qu'il y a au bout.
Et de mon côté, je rejoins ce qui est dit par Alban et Cécile, et j'aime bien l'expression de conscientisation de ce qui est possible de faire sur tous les territoires. Je rajouterais aussi peut-être le fait de travailler toujours avec les citoyens sur les projets et les intégrer tous les dispositifs territoriaux, urbains, qui existent pour faire vivre ces enjeux de santé un peu partout.
Et les citoyens sont réceptifs, j'imagine.
Exactement, mais ils ont plaisir à s'investir. Et au contraire, la santé est un droit, hein, c'est ce que Cécile disait. Et donc, c'est aussi un bien social sur lequel ils s'appuient. Et donc, c'est vrai que les faire participer à cet enjeu, c'est crucial aujourd'hui. Et on est très contents d'y arriver à notre échelle.
Alors nous allons passer aux questions des auditeurs et je me tourne vers Hélène à présent justement pour répondre aux questions de nos auditeurs.
Oui, Bérénice, alors avant tout on a mis toutes les ressources qui ont été partagées par nos invités sur le chat de l'émission. Une première question d'un auditeur sur l'importance du sujet, mais comment concrètement vous arrivez à rapprocher les acteurs de la santé et les équipes qui font la ville et les territoires de demain?
Dans un monde idéal, dans le guide Isadora, dans un monde idéal, on envoie un mail et tout le monde répond à ce mail et tout le monde est dispo pour venir à une grande réunion. En réalité, il va falloir du temps pour partager ces enjeux et on peut former quelques personnes dans la collectivité, essayer de faire un séminaire réduit et petit à petit, ces enjeux vont prendre de l'importance, ils vont être partagés avec les différents services et en fin de compte, on arrivera dans le projet à embarquer tout le monde.
Je pense qu'effectivement, il n'y a malheureusement pas de recette miracle là-dessus. Il faut vraiment être convaincu pour porter ces sujets avec force et arriver à embarquer les gens avec nous là-dessus. Donc voilà, c'est la technique du pied dans la fenêtre. Il faut trouver quelqu'un de convaincu dans le service de la direction de l'urbanisme, de la direction des espaces verts, qui sera capable, si vous êtes dans une direction de la santé publique, de vous suivre là-dessus, de porter votre message auprès de ces directeurs également. Donc voilà, je pense que c'est... Il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret, mais il y a plein de choses possibles. Par exemple, adapter le plaidoyer, en fait. Les questions de santé, bien sûr, les questions de santé vont parler aux habitants, mais parfois, l'argent reste le nerf de la guerre. Et donc là, attaquer sur l'économie, ça peut aussi permettre de faire son chemin. Les questions de santé sont aussi les questions économie, d'attractivité du territoire, etc.
On a d'autres questions, hein, c'est un sujet qui intéresse nos auditeurs. Dans la continuité aussi, c'est est-ce que vous avez mis en place une stratégie de formation et de sensibilisation sur cette question? Et le corollaire, est-ce que vous avez une boîte à outils un peu? Alors Colin nous a présenté déjà des guides et des démarches, mais une boîte à outils dédiée, peut-être avec des référentiels et un cadre méthodologique.
Alors, prend la parole?
Pour les formations?
Oui. Pour les formations, je peux commencer. Il y a une multitude de formations qui existent aujourd'hui en France et qui se structurent sur les questions d'urbanisme favorable à la santé. Au ministère, justement, on a lancé il y a maintenant 2 ans une formation sur l'aménagement durable, favorable à la santé, à laquelle Cécile participe. Et on a animé plusieurs formations dans tous les territoires et ça va continuer en 2026. Donc j'invite aussi vos auditeurs à assister à ces formations qui sont gratuites et qui se déroulent sur 1 jour et demi partout en France.
On retrouve le programme peut-être sur le site Écoquartier.
Le site Écoquartier, et voilà. Le site du ministère de l'aménagement durable.
Sur le chat.
Et puis pour les outils, on a donc beaucoup d'agences et d'écoles, l'école des hautes études en santé publique qui a publié le guide Isadora, qui peut être un petit peu lourd comme ça, donc il vaut mieux être accompagné pour le découvrir. Hein, c'est vraiment bien. On peut aussi organiser dans le cadre du CLS, je le disais tout à l'heure, faire un diagnostic santé et puis ensuite faire un petit point, un séminaire avec autant de personnes autour de la table que possible. On a, il me semble, la ville de Paris qui va mettre en ligne bientôt une boîte à outils pour faire des évaluations d'impact sur la santé.
Ah oui.
Voilà, c'est un outil qui est hyper intéressant, mais parfois qui peut faire un petit peu peur. Et permettre de faire des évaluations d'impact sur la santé en régie, c'est vraiment faire un gros pas pour l'urbanisme favorable à la santé. Donc ce sera bientôt en ligne.
C'est intéressant de se projeter.
Oui, tout à fait. Et je pense que en creux, en fait, l'idée importante aussi, c'est le partage d'expériences. Et nous, en tant que collectivité, évidemment, c'est très important pour nous de regarder aussi ce que font nos homologues dans d'autres collectivités territoriales, que ce soit... peu importe le contexte en France. Et donc voilà, on regarde aussi beaucoup ce que font nos homologues de différentes régions, de différentes collectivités, parce que on voit encore que c'est un sujet qui est en train de se structurer depuis maintenant quelques années en France. Il y a une communauté qui s'est structurée quand même, je pense, à l'échelle nationale sur ces enjeux. Mais voilà, on est encore aussi parfois à un peu expérimenter des nouvelles approches, des nouvelles méthodologies, parce qu'on est au croisement de plusieurs sciences, de plusieurs méthodes. Donc voilà, c'est aussi beaucoup, je pense, de partage d'expérience entre acteurs.
Et est-ce que la ville de Paris peut regarder aussi dans d'autres capitales ?
Oui, évidemment. On pense qu'il y a toujours des bons exemples à prendre ailleurs. Voilà, nous on est très preneurs de ce que font nos homologues en France et à l'étranger.
Cécile.
Oui, et je pense aux expérimentations. On a le CEREMA et l'ADEME également qui portent des grandes expérimentations sur le sujet. Donc là, il y a la saison 2 des Expé Urba Santé qui va se lancer. C'est concrètement l'accompagnement des territoires, de 15 territoires sur ces sujets-là, mais dans la première phase de la démarche, tout autour des élections, ce sera un accompagnement généralisé. Donc on peut vraiment participer à cette démarche, se lancer dans l'urbanisme favorable à la santé grâce à l'ADEME et aux Expé Urba Santé.
Et c'est à retrouver sur le site de l'ADEME. Merci beaucoup Hélène. Cette émission consacrée à l'urbanisme favorable à la santé et à la démarche Écoquartier touche à sa fin. Merci à vous, chers auditeurs, pour avoir suivi cette émission. Vous retrouverez évidemment le podcast sur le site et l'application de Radio Territoria. On vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt dans le MAC de l'aménagement du logement et de la nature.
Le MAC de l'aménagement du logement et de la nature, en partenariat avec les ministères de la Transition écologique, de l'aménagement du territoire, de la ville et du logement, en direct du SMCL 2025 sur Radio Territoria.